Salut tout le monde et bienvenue dans Let's Talk Venture, le podcast des voyageurs, backpackers et aventuriers aux folles histoires. Je suis Tony et aujourd'hui je discute avec Elisa, une amie d'école d'ingé qui est partie vivre 7 mois au Japon. Ensemble, on discute de ses premiers mois un peu compliqués au Japon, de la culture compliquée du travail pour une femme au Japon et enfin de la sexualité ou non-sexualité chez les Japonais. Je vous laisse donc en sa compagnie, Let's Talk Venture with Elisa. Salut Elisa!
Salut!
Oui!
Awa!
Oui, tout à fait. On se connaît.
Tony? Oui.
On se connaît.
On se connaît bien.
De où?
Depuis. Ah, ça fait combien de temps qu'on se connaît déjà? 4 ans?
T'es entrée à l'UTBM en 2015, je suis revenue. 2014. Fin 2014.
Non, 2015.
Début 2015.
Donc 2015, le deuxième semestre. Non, 2016, du coup.
Oui? Oui, tout à fait. Tout à fait.
Exact. Donc du coup, ça fait quand même un petit bout de temps.
Tout à fait.
4 ans.
Et nous sommes en 2020. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
Oui. Alors, je suis Elisa.
Oui.
Désastrée. Faut que je dise quoi après. J'ai 26 ans. Je viens d'avoir 26 ans. Je suis diplômée d'ingénierie, comme Tony.
La même école.
La même école, le même cursus.
Oui.
T'as fait design?
Ouais.
Du coup, design aussi. Et je suis partie au Japon et dans plein d'autres pays aussi.
D'accord.
Voilà.
T'es partie combien de temps au Japon?
Je crois que c'est 7 mois.
Ce qui est pas vrai. Ce qui est bien.
Ce qui est très bien, déjà. C'est très très bien. C'est moins que ce que j'aurais imaginé, mais... Enfin non, que ce que... Comment dire? C'est moins que le temps de vraiment de s'intégrer et de s'installer pour vraiment profiter, mais c'est déjà ouf. Mmh. Voilà.
C'était comment?
C'était très très bien. Franchement, après les 3 premiers mois, je t'avoue que c'était compliqué.
Oui.
L'intégration, puis j'étais un peu malade et du coup c'était compliqué. Après, je comprenais pas trop ce qu'on attendait de moi aussi, donc c'était un peu compliqué. Moi, je devais travailler sans vraiment travailler, en étant tout le temps en train de aussi voyager ou je ne sais quoi. Et du coup, c'était assez compliqué de comprendre vraiment ce qu'on attendait de moi. Et après ça, et ben, puis je crois aussi que j'attendais aussi un peu de quelqu'un qui vienne et tout ça pour pouvoir après faire ma vie. Et une fois qu'il est venu, ça allait mieux. J'ai fait ma vie, j'attendais plus. Et là, vraiment, j'ai vraiment kiffé.
Est-ce que tu peux me redonner et nous redonner le contexte dans lequel t'es partie au Japon en fait?
Alors, je suis partie au Japon pour mon dernier stage d'ingénierie, donc c'est-à-dire la dernière année, les derniers six mois pour valider du coup le diplôme d'ingénieur. Du coup, j'ai fait mon stage en laboratoire à l'université de Kyushu, qui est l'île du sud du Japon, juste en face de la Corée du Sud. Kyushu, il y a la ville de Fukuoka qui est la... Comment on peut dire ça? C'est la préfecture ou la plus grosse ville de l'île, en gros. Et c'était super agréable. Parce que là-bas, il y a la mer, la montagne. C'est très beau. Les gens sont agréables. Après, ils sont pas très habitués de voir des étrangers par rapport à Tokyo. Ou d'autres villes. Par exemple, Kyoto, Tokyo, enfin le parcours type des touristes. Mais du coup, ça, c'était bien parce que en même temps, on se confrontait vraiment à la culture japonaise type. Et en même temps, on n'était pas beaucoup à être internationaux. Donc du coup, forcément, ça crée un groupe, une coercité, un tout, quoi.
Il réagissait comment typiquement les gens quand ils croisaient des étrangers?
Bah, il y avait deux types de réactions.
Oui.
Oui. Alors il y avait la réaction de « je vais faire une photo avec des étrangers parce que c'est trop cool, je vais faire genre je suis amie avec des étrangers. »
Ah donc, du coup ils réussissaient à passer le cap de la
timidité. Ah oui, parce qu'ils étaient bourrés, globalement. Et du coup ils venaient nous demander de faire des photos avec nous.
Ouais.
Et du coup on a eu plusieurs fois, on était avec 3 potes européens. Européenne globalement ou maghrébine aussi, il y avait une maghrébine avec nous qui était tunisienne et enfin on était 2 françaises et une tunisienne, une allemande, une hollandaise, donc Les gens venaient nous voir assez facilement et nous dire « Ah, au fait, vous voulez pas faire une photo avec nous? Ce serait trop cool. » Et après, ils nous posaient la question de savoir s'ils pouvaient la poster sur les réseaux sociaux pour dire qu'ils étaient avec des étrangers. En fait, ils nous ont vus 5 minutes. Ils faisaient « Oui, on est amis avec des étrangers » sur leurs réseaux sociaux. C'était très drôle. Et puis après, sinon, il y avait l'autre type de réaction que j'ai eue avec mon copain de l'époque... où on est allé, du coup on était allé dans des endroits un peu plus reculés du Japon. Et là on a eu un mec qui nous a regardé de haut en bas très bizarrement et qui a changé de rame de train.
Oh la vache!
C'était très violent. Et ça c'était très violent. Voilà. Donc il y a vraiment plusieurs types de réactions, ou sinon les gens s'en fichent généralement, mais ou te regardent un peu du coin de l'œil pour savoir ce que tu vas faire, si tu vas faire des conneries ou pas. Genre par exemple manger dans le train, ce qui est totalement illégal là-bas.
Ah! Ah! Ok.
Par exemple, manger et boire dans le train, c'est totalement illégal, sauf si tu manges des petits bonbons qui sont pas salissants.
Mmh.
Mais un gros sandwich où t'en mets partout ou des salades, c'est pas possible. Voilà.
J'avais ce truc là en Chine, c'est en fait vu que je voyais pas à proprement parler un pictogramme qui me disait ne mangez pas dans le train,
ouais.
Mais apparemment c'était interdit.
Oui, c'est des trucs sous-entendus.
Ben, en fait, à mon avis, c'était écrit, mais écrit littéralement en chinois. Donc
du coup, t'arrivais pas à le lire
ça, et du coup, ben, je mangeais en fait parce que j'avais faim. Ouais, c'est...
mais en fait, moi je me suis rendu compte, c'est que quand on ouvrait un truc dans le train, un onigiri,
ouais.
Ou... enfin, les onigiri, c'est des petits triangles de riz, je sais pas. Et ça, c'est pas très salissant, en vrai, mais rien que ça, ouvrir ça, les gens te regardent dans le train et te jugent un peu. Je sens qu'ils te jugent. Du coup, on s'était dit, bon, il y a un problème, et apparemment, de dire... de... en fait, à force de se poser les questions, dans le groupe, on a su que c'était pas bon de manger dans les trains ou dans les transports en général.
Parce qu'il n'y a pas dit pictogramme non plus. C'est ça?
Non.
D'accord.
Après, on sait qu'il ne faut pas écouter la musique très fort. On sait qu'il faut rester très calme et pas parler fort. Respecter, en gros, la société autour de toi plus que toi-même. Si, par exemple, tu as envie d'éclater de rire, tu ne peux pas. Parce qu'il vaut mieux respecter le calme et le silence des autres.
Oh, c'est triste, ça.
C'est triste, mais en même temps, c'est aussi très agréable.
Ouais,
quand,
ouais.
Quand toi t'es dans le tram et, ou dans le bus ou dans le train, il n'y a pas de bruit, les gens sont calmes, les gens sont tranquilles, les gens sont sereins. Donc tu te sens pas agressé, tu te sens pas dans le mal, quoi, parce que tu prends un transport qui te correspond pas ou je sais quoi. Donc ça, c'est assez agréable. En fait, c'est agréable, mais en même temps, c'est une très grosse contrainte pour la société en général.
Pour les individus, pour
oui,
la
voilà.
société
ouais,
plutôt.
Ouais, c'est ouais. ça, ouais. Donc, après, oui, c'est sûr que... par exemple, les quatre... après, nous, on le faisait, mais... parce que comme on était un peu connotés comme touristes, ça passe, parce qu'on est des gens qui ne connaissent pas la culture. Donc, les Japonais se disent... ils sont pas de chez nous, c'est normal qu'ils aient pas les mêmes réactions que nous. Donc ils acceptent ça.
Ouais.
Ils savent qu'on va pas rester. Donc ça passe.
Mais typiquement pour un mec comme moi, tu vois, s'ils savent pas que je suis pas japonais, ça passerait moins.
Après, je crois pas que t'aies une tête de japonais.
C'est vrai, c'est vrai.
T'as plus une tête du continent quand même. Non ?
T'osais pas dire quel pays, c'est ça ?
Non, mais en vrai, les Japonais, ils ont vraiment une tronche particulière.
Oui, c'est vrai.
Et ça se remarque très vite. Et puis même dans la manière d'être, ça se remarque très vite. Après, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de Coréens à Fukuoka.
Ah bon ?
Du coup, la ville où j'étais. Oui, parce qu'en fait, elle est juste en face de Séoul.
Ah oui, c'est vrai, c'est pas faux.
C'est à 1 heure d'avion, je crois, un truc comme ça. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de Coréens. Et beaucoup, beaucoup de Vietnamiens, parce qu'en fait... enfin, l'île, elle est... enfin, le Japon est un peu en arc de lune, comme ça. Et l'île du Sud, elle est vraiment en face de la Corée et en face de Shanghai aussi. Et vraiment à côté de Taïwan par rapport au Japon. Donc en fait, c'est vraiment l'entrée du Japon par rapport à tout ce qui est international.
Ah.
même si Tokyo est la capitale.
Ah.
Donc en fait, il y a énormément de culture sans vraiment l'avoir.
D'accord. Donc en gros, c'est le deuxième spot international du Japon, quoi,
Mais
quelque sorte.
vraiment international, c'est vraiment les gens ils viennent pour y habiter ou y vivre. Pas juste voyager.
D'accord.
Voyager, c'est plus Tokyo, Osaka
Ouais.
et Kyoto. Du
D'accord.
coup.
Et en termes de budget, ça allait, du coup, dans
Bah,
ces
c'est moins
villes-là.
cher que Tokyo.
Ouais, je mets.
Après, moi, mon loyer, j'étais en résidence universitaire. Donc, mon loyer était pas très cher. Je crois que c'était. Bon, après, c'était en yens. Donc, il faut que je fasse le calcul. Mais c'était moins de 200 euros.
D'accord.
Donc, c'est très, très honorable.
Ouais.
Après, c'était bon. Un balai un peu. Mais tu peux y vivre 6 mois sans problème. Après, je sais que les logements étudiants là-bas, ils te donnent un logement étudiant vraiment pas cher pour le temps de t'adapter. Enfin, quand tu es en université, par exemple, j'avais deux amies qui sont en thèse, qui sont toujours en thèse là-bas. Du coup, elles restent au moins minimum 3 ans là-bas. Et elles ont dû changer d'appartement parce qu'en fait, on t'autorise à rester dans cet appartement que 6 mois maximum. Donc 6 mois, c'est le grand maximum, mais après, tu fais ta vie, quoi. Donc soit tu changes d'appartement, soit tu voyages. Enfin, moi, ce qui a été mon cas, moi, je suis restée 6 mois pour mon stage, et après, j'ai voyagé.
Quand tu disais placard à balai, c'est quelle taille?
C'est en gros, t'as un couloir. T'as une salle de bain. Mais les salles de bain japonaises sont très, très, très pratiques.
Ah.
En fait, tu bougeais les toilettes pour avoir le lavabo
Ouais.
ou le toilette.
C'est pas un 8 mètres carrés, par exemple.
Je sais pas comment
C'est
ça
genre un
s'appelle.
couloir et à l'étage, t'as un lit en longueur,
Non.
c'est ça?
C'est un couloir,
Ouais.
t'as le frigo, la plaque qui est en face de la salle de bain. La salle de bain, soit tu te douches et du coup, t'as plus tes toilettes, soit tu t'as tes toilettes mais t'as plus ta douche.
Généralement, tu fais rarement les deux en même temps, donc.
Exact. Et du coup, tu bouges le lavabo pour avoir soit les toilettes, soit la douche. Donc c'est assez pratique, c'est un peu un box, comme t'as l'impression d'être un peu en aérospatial, tu vois, t'as un espèce de box complètement fermé, hermétique. C'est très bizarre. Genre en fait, tout est en plastique tout autour, quoi.
D'accord.
T'as pas. Là en France, tu vois, c'est un peu genre t'as des carreaux et tout, et après c'est le plafond, tu vois, le vrai. Et là, c'est vraiment un box entier de plastique, et tu peux arroser partout, et ça humidifiera rien.
D'accord, ok.
Et du coup, tu bouges un peu tes trucs pour pouvoir avoir la place. Après, on continue. Donc, tu as la salle de bain. La salle de bain avec des guillemets, bien sûr. Les petites plaques électriques. Tu as le frigo. Ton lit. Putain, le lit était dur. Mais vraiment hyper dur. J'ai jamais vu ça. C'était vraiment, vraiment, mais des cailloux. Et après, tu avais un espèce de futon que tu mettais dessus. Pour que ce soit un peu plus mou. Ça marche pas du tout. Et après, t'avais une couverture. Et les couvertures étaient trop bizarres. J'ai mis une semaine et demie à comprendre comment on mettait les draps sur les couvertures. Parce que c'était vraiment très bizarre.
OK.
En fait, t'as un trou au milieu. T'as un trou central. Je sais pas si tu vois.
Pour rappeler le drapeau japonais ou... D'accord.
Pas du tout. En fait, c'est un espèce d'ovale et en fait, tu passes ta couette dans l'ovale du milieu et après, tu vas les mettre dans les coins.
Ah, comme une chaussette.
Ouais. Et ça marche comme ça. Et j'ai mis très très longtemps à comprendre que ça marchait comme ça. Il a fallu que quelqu'un vienne m'expliquer. Voilà. Et après, du coup, tu as le lit, le bureau, tu as une petite armoire. Ça dépend s'il y a des cintres ou pas, ça dépend des anciens colocataires. Non, pas colocataire, mais locataire. Et après, il y a un petit balcon. Le balcon est aussi grand que l'appartement, en fait. Et moi, j'étais au dernier étage, donc j'avais une super vue sur le coucher soleil. C'est trop bien.
Oh, d'accord. Ok,
Voilà.
ça marche.
Mais c'est très petit. Tu peux pas vivre très longtemps dedans.
Comment ça s'est passé la communication là-bas? Parce qu'ils sont pas très doués en anglais.
Non, c'est vrai. En fait, plus tu parles un anglais francisé, plus ça marche. C'est fou, hein? Quand je sortais mon plus bel accent anglais que j'avais travaillé depuis je sais pas combien de temps, ça marchait pas. Et ils me regardaient avec un œil, mais je t'explique pas.
Dragon Ball Z.
Par contre, mon copain
Dragon
qui.
Ball Z. Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Dalagan Bolu.
Dragon Ball. Par contre, mon copain qui parle, enfin, qui parle anglais, mais qui a plutôt l'accent français, qui posait la question.
Syriac?
Non,
Max?
mon copain,
D'accord,
mon.
ok.
Eh ben, ça marchait tout de suite. Mais c'est vrai que Max a un accent français très 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 prononcé.
Donc ça marche bien.
Mais c'est vrai que ça allait. Il a un accent bien anglais. Parce qu'il est parti en Angleterre. Après, je vais pas juger trop. Faudrait demander à sa copine.
Non mais du coup, ouais, la communication là-bas, ouais, en gros, plus t'as un mauvais accent,
Bah, plus
plus
c'est,
c'est
en fait, plus tu montres que tu sais pas trop parler anglais, plus les Japonais vont pas être pris de haut, plus ils vont essayer de comprendre.
D'accord, ok.
Et plus ils vont être compatissants vis-à-vis de toi parce qu'ils savent que eux ils sont dans le même cas. Et du coup, ils vont pas te dire ah non, c'est pas possible. Alors que par exemple, il y a des trucs possibles. C'est très bizarre.
Il y a ce truc-là, t'avais pris les cours de chinois toi aussi, je me
Ouais.
souviens. Je sais plus si tu te souviens, notre prof nous avait expliqué qu'en fait, la langue japonaise, si on décrit les langues par rapport à des cercles de phonétique, donc le français a un cercle d'une taille moyenne, le chinois par exemple a un autre cercle avec très peu de sons en commun entre la langue chinoise et la langue française. La langue anglaise a beaucoup plus de sons en commun entre l'anglais et le français. Et typiquement, tous les sons japonais sont réunis dans un petit cercle qui est totalement inclus dans la langue française, en fait.
Ouais, elle nous
Ouais.
avait dit. Elle nous avait dit qu'en gros, que quand t'es français, tu peux prononcer à peu près tous les sons japonais
Ouais.
très facilement. Par contre, à l'inverse, c'est pas possible. Par exemple, les japonais peuvent pas dire le re
Oui.
ou des sonorités un peu comme ça.
La différence entre le et est.
Oui, ouais, voilà, ce genre de choses. Mais par contre, nous, français, nous pouvons prononcer à peu près toutes les lettres japonaises très facilement. Il faut juste rajouter, en fait, entre deux consonnes, il faut rajouter un U. Genre ou quand tu parles ou un o. Par exemple, quand tu prononces un truc à l'anglaise, pour qu'ils comprennent, il faut quand entre deux consonnes, il faut que tu me dises un ou ou o.
Please, ou
Oui.
I am looking for Lou.
C'est ça, exactement, c'est parfait. Genre
Looking.
là, tu vas te faire comprendre en japonais.
I am looking for Lou. The Lou. Market Lou.
Exactement. Et ben ça, c'est parfait pour parler en anglais
Ah la
au
vache.
Japon. C'est très drôle.
Un peu cliché, mais ça marche quand même assez bien.
C'est cliché, mais c'est en
Ouais.
vrai. Après, je sais pas, à Tokyo, ça allait, on parlait anglais avec Syriac et ça marchait. Mais à Fukuoka, qui est moins touristisé,
Ouais.
où il y a moins de touristes en gros. Européen en tout cas ou anglo-saxon, et ben il fallait soit faire des signes, soit parler avec Google Traduction quoi. Ça marchait pas.
Signe.
Clairement. Et après on avait appris à commander en japonais
Ouais.
et ça marchait à peu près bien. Après on a été amis avec des Chinois qui parlaient très bien japonais. Ça c'était cool. Ou après moi j'ai eu un peu hein, des complications. Par exemple j'ai été malade. Et c'était très 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 compliqué pour expliquer ce que j'avais aux Japonais qui ne comprenaient rien à l'anglais. Et je m'en rappelle que je suis allée à la pharmacie, ils m'ont dit on n'a rien pour toi. Et après j'ai dû aller à l'infirmerie de l'université alors que j'avais 42 fièvres à peu près, donc qui était à 20 minutes à pied. Donc j'ai dû aller à l'université pour pouvoir avoir un rendez-vous avec l'infirmière qui a rien pu faire pour moi, bien entendu, parce que c'était un truc trop spécialiste, c'était comment on appelle ça, des otites. Et donc ça fait extrêmement mal les otites, on est d'accord là-dessus. Après, c'est pas hyper grave, mais ça fait genre extrêmement mal aux oreilles, tu peux pas dormir. Donc j'étais d'une humeur irritable au possible. Donc je vais à l'université, j'explique à peu près ce que j'ai, l'infirmière comprend parce qu'elle a des notions d'anglais, donc ça va. Et après elle me donne un numéro, elle prend le rendez-vous pour moi parce que je suis incapable de prendre rendez-vous pour moi. Et en fait au Japon ça marche que par spécialiste. quand t'es malade d'un truc, tu vas voir un spécialiste direct. C'est trop bizarre. Tu t'as pas de généraliste qui va te soigner pour un truc
Mais
général.
c'est plutôt bien.
Je sais pas.
D'accord, ok.
Si tu parles pas la langue, c'est très compliqué. T'as pas de médecin généraliste qui
Ouais.
va te soigner à peu près pour tout. Tu vas voir que des spécialistes. Par
Ouais.
exemple, t'as mal aux dents, tu vas à un dentiste. T'as mal aux oreilles, tu vas à un neurologue. T'as mal à ça, tu vas voir ça. Bah, c'est peut-être mieux, mais en tout cas, quand tu parles pas la langue, c'est très compliqué. Et du coup, elle a pris mon rendez-vous pour moi. Elle m'a dit, c'est telle heure à tel endroit. Tu dois te rendre à ça. Donc j'y suis allée et tout. Elle avait fait une lettre pour le médecin pour que je n'aie pas à expliquer ce que j'avais. Ce qui est très bizarre. Et après, le médecin, il est allé. Il m'a ausculté et tout ça. Et pour me montrer ce que j'avais, il a sorti un vieux bouquin de ses années, je pense, d'universitaire. Pour me montrer ce que j'avais, parce qu'il y avait la traduction dans ses bouquins en anglais.
Ouais, vache!
Et après, il m'a fait, bon, tu vas à cette pharmacie-là. Et en fait, à la pharmacie, ils te donnent pile le bon nombre de médocs pour ce que tu as. Ils te donnent pas plus comme en France,
Ouais.
où on te donne la boîte ou ce genre de choses, tu vois. Là, on te donne pile poil le nombre de médocs que tu as besoin pour te soigner. Bon, après ça, j'étais soignée. Mais c'était très compliqué. Ça m'a mis au moins 15 jours à essayer de me faire soigner. Et après, j'ai mis un peu de temps à me remettre derrière. C'était un peu long.
Ok, c'est une bonne anecdote, c'est bien.
Ah bah franchement, le médecin qui sort son vieux bouquin et qui fait pff, comme
Mais
ça,
non!
pour le dépoussiérer. Mais je pense qu'il l'avait jamais ouvert de toute sa vie. Enfin, il l'a ouvert quand il était à l'université, c'était pas possible.
La vache.
Et après, il l'ouvre, il cherche la page pour savoir, pour me montrer ce que j'avais vraiment. Et après, il me montre, sauf que moi, je connais pas le langage médical anglais. Du coup, je suis avec mon téléphone, je cherche les mots. C'était n'importe quoi. Et après, on se serre la main, on dit arigato gozaimasu. Je
La
me
politesse
barre.
japonaise avant tout. La politesse
Exact.
japonaise, il faut
Et
la
puis
garder.
en plus, dans la salle d'attente du médecin, il n'y avait que des gamins. C'était que des parents qui accompagnaient leurs gamins, parce que les otites, c'est que les gamins qui en ont généralement. Et j'étais qu'avec des gosses qui avaient moins de 10 ans. Je me sentais tellement pas à ma place. C'était trop drôle.
Regardez chelou, je pense, c'est ça.
Ouais, grave.
Oh, c'est...
Et en fait, le médecin, il avait deux infirmières. Et elle faisait tout en vrai. Bon, comme d'hab. Hein. Et le médecin, il a juste regardé mes oreilles. En fait, elles ont préparé tout. Elles m'ont mis le truc dans l'oreille. Et lui, il a juste regardé. Il a fait Et après, il est cherché dans son vieux bouquin. Pour m'expliquer. C'était trop drôle. Et j'en pouvais plus. J'appelais ma mère à chaque fois pour dire Ah oh, oui, j'en peux plus. J'en ai marre de ce pays. Je veux rentrer chez moi.
Bon choix de vie, c'est
Voilà, mais après j'ai
un bon
kiffé.
début.
En vrai, maintenant j'en rigole, mais sur le moment c'était pas cool.
Ouais.
Mais en vrai, maintenant j'en rigole.
Si j'aime bien, c'est. T'as connu. Tu connais Laurine?
Oui.
Ouais, c'est elle, en plus,
L'âge?
ouais. Elle m'a vachement décomplexé par rapport à ça. Elle m'a donné une sorte de philosophie de vie que j'aime beaucoup appliquer maintenant. C'est que c'est pas grave si ça, c'est un fail. Ça va faire une bonne histoire.
Exact, c'est
C'est.
vrai.
Ouais. Et ça s'applique à tout en fait, ça s'applique au travail, au voyage, aux anecdotes, c'est voilà,
En
c'est tout.
vrai, tout. En fait, si tu n'essayes pas dans la vie, bah, tu peux pas jamais y
Ouais.
arriver. Et en fait, quand tu essayes, forcément, tu vas échouer à un moment donné
Ouais.
pour arriver après mieux derrière. Et après, les fails vont faire que bah, ça va faire de bonnes
C'est
anecdotes,
ça, c'est.
ou ça va faire rigoler tes potes, ou bah, après, à voir, tu vois, comment tu arrives à le tourner. Ou au pire, ça va faire juste des leçons de vie que tu reproduiras plus après derrière. Mais je pense qu'il vaut mieux essayer.
T'as voyagé où du coup au Japon?
Alors, j'ai voyagé pas mal dans l'île de Kyushu,
Ouais.
le nord.
Alors que tu vivais dans le sud.
Non, je vivais dans le nord
Ah,
de
tu vivais dans
Kyushu.
le nord. D'accord, ok.
En fait, Fukuoka est dans le nord de Kyushu. Après, t'as Kitakyushu qui est vers Hiroshima.
Ouais.
Après, je suis allée à Nagasaki. Après, je suis allée à, dans la préfecture de Oita, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits villages un peu abandonnés, très, très rural. Je pense que dans cette préfecture... Enfin, pardon. Dans toutes les préfectures du sud, tu peux trouver beaucoup, beaucoup de villages où il y a des maisons abandonnées.
À cause de Hiroshima, c'est ça? Non, de Fukushima?
Non, non, je pense pas que ce soit à cause des Fukushima. Ou... Non, Fukushima, c'est vers Tokyo. Donc, c'est vraiment à cause du fait qu'il y a beaucoup de boulot dans les villes et pas trop dans les villages.
D'accord.
Et du coup, en fait, tu peux trouver des villages totalement abandonnés au Japon très, très facilement. Ou des maisons abandonnées, ou des hôtels abandonnés. J'ai des amis qui étaient au Japon et qui ont voyagé qu'en stop. Et en stop, ils s'arrêtaient dans des endroits un peu perdus. Et ils ont trouvé des hôtels où ils pouvaient dormir normalement. Enfin, ils dormaient. Et l'hôtel était quand même à peu près normal, mais il était totalement abandonné, en fait. Et... ça plein de fois, en fait ils sont allés, plus ils allaient dans le sud, plus ils ont vu des trucs comme ça. Donc, et puis moi j'étais dans des villages, je suis allée dans des villages où c'était c'était cool, mais c'était très 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 rural. Il y avait beaucoup d'architecture typique japonaise rurale, mais du coup tu comprends mieux pourquoi dans les mangas ils disent oui je veux pas aller voir mes grands-parents parce que c'est on s'ennuie dans la cambrousse, en fait. Parce qu'en fait, il n'y a vraiment rien. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont abandonné leur maison du village, quoi.
Vache.
Et tu peux trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs abandonnés. Vraiment tout type de trucs abandonnés au Japon. Et qui sont restés tels quels. Parce que personne ne touche rien. En fait, au Japon, quand tu perds un truc, personne ne va le toucher.
D'accord.
Par exemple, j'ai rencontré quelqu'un là-bas qui a habité, je crois, 2-3 ans au Japon. Et en fait, il m'a expliqué qu'il était allé à un rendez-vous industriel au Japon et tout ça. Et il s'est arrêté devant un grand building. Il était venu en vélo. Et son vélo, en fait, comme il était en retard, il l'avait laissé en plein milieu. Il l'avait laissé là. Et quand il était reparti, en fait, il l'avait oublié. Et il est resté tout le week-end. Et devant mal posé, devant l'immeuble. Et il n'a pas bougé. Personne ne l'a touché.
C'est fou.
Donc, y a beaucoup, beaucoup de choses qui restent intactes au Japon. Comme ça, qui sont abandonnées, mais qui restent.
Ok, d'accord. Ah. Je comprends mieux l'histoire de comment la voiture de Shiro allait rester là.
Non, mais ça, le vol, c'est, je pense que c'est dans les très grandes villes, dans des quartiers vraiment spécifiques.
Ouais.
Vraiment focalisé sur les touristes.
Mmh.
Mais sinon, en vrai, ça existe très peu.
La criminalité,
criminalité, je pense qu'elle existe, mais que quand t'es japonais.
Ouais.
Quand t'es japonais ou que quand t'es touriste dans les endroits touristiques.
Ou quand t'es patron de... Pardon.
Oui. Mais je pense que c'est que quand t'es japonais même, en fait, la criminalité est dans le système.
Ouais.
Plus que dans la vie. Genre, c'est pas comme en France où tu vas dans la rue et là, t'as la criminalité.
Mmh.
C'est le Japon, c'est quand tu vas demander une assurance, là, t'as la criminalité, tu
D'accord.
vois.
D'accord, ok.
Ou ce genre de choses.
Ok.
Ou quand tu, en fait, t'as plus assez de sous pour payer tous tes trucs, tu vas devoir demander de l'aide à la criminalité.
Ah. Ok. D'accord. Ils sont vus comment les touristes là-bas?
Là où j'étais?
Ouais, ou dans le Japon en général, si t'as une idée de... Dans le Japon en général.
Ça dépend vraiment, je pense, de l'endroit où t'es.
Ouais, ok.
Là où j'étais, Fukuoka, ça allait à peu près parce qu'ils avaient un peu l'habitude. Mais on voyait qu'on était un peu quand même des bêtes de foire ou des gens qui n'étaient pas habituels d'être blancs avec des grands yeux. Ce qui est très bizarre pour moi parce que c'est la première fois que j'ai eu vraiment ce regard un peu de « Ah, je suis bizarre, tu vois, je suis pas normale. » par mon physique. Et après, à Tokyo, non, il n'y a pas de problème. Kyoto non plus, Osaka non plus. Là, on ne te regarde même plus parce que les gens, ils sont tellement habitués à voir des touristes que ça marche plus. Par contre, quand tu vas un peu dans les endroits un peu reculés, quand tu es européen, ouais, on te remarque très très vite. C'est très drôle. Soit on a la... Soit le japonais, les Japonais ont vraiment l'attirance totale pour toi parce que tu es européen, ou même français, du coup, parce que français, t'as vraiment, enfin, les Japonais aiment vraiment la France.
Ça va falloir qu'on en parle de ça.
Ouais. Et, ou soit ils te calculent même pas ou changent d'Europe, comme j'ai dit au début, parce qu'ils ne te supportent pas, quoi.
À ce point-là. Ah
Il y
oui.
a vraiment les deux extrêmes. Après, tu as ceux qui s'en foutent, mais du coup, c'est pas. Mais après, par exemple, enfin, moi, j'ai rencontré une vieille dame qui avait à peu près 60-70 ans. Je suis allée à un parc pour visiter la ville de Fukuoka. Et j'étais allée en Starbucks, comme ça, toute seule. Et la dame, elle a essayé de communiquer avec moi parce qu'elle était venue en France et qu'elle était passionnée par l'Europe, et ou en tout cas la France. Et elle savait pas que j'étais française au début. Et elle a juste essayé de communiquer avec moi. Elle parlait pas un mot d'anglais, c'était très drôle. Et du coup, on communiquait en iPad. Elle avait son iPad et on communiquait en iPad. C'était trop drôle. Et elle m'a fait visiter pas mal d'endroits à Fukuoka. Et c'était vraiment cool parce que du coup, c'était des endroits que je connaissais pas du tout et que j'aurais jamais visité moi toute seule. Donc c'était vraiment chouette. Une dame qui s'était dit, bah moi on m'a fait ça enfin on m'a fait visiter la France, l'Europe quand je suis arrivée. Il y a des gens qui étaient cool qui m'ont fait visiter. Moi je vais faire pareil pour les jeunes qui viennent au Japon. C'était vraiment trop chou. C'était une artiste, une musicienne
D'accord.
qui était à la retraite. Et elle habitait un peu en retrait dans la forêt et tout. Je suis jamais allée chez elle, mais elle m'a montré des photos.
D'accord. C'est trop mignon.
Oui.
C'est génial comme anecdote. Ok.
Je me rappelle plus comment ça s'appelle.
Pas, t'inquiète pas. C'est pareil, les prénoms asiatiques en
Elle
Chine
m'avait
sont.
proposé de faire un road trip avec elle dans toute l'île de Kyushu, mais malheureusement, j'ai pas pu parce que j'avais des cours.
Ah oui.
Mais j'aurais trop, trop, trop aimé.
Ça se passe comment le contexte du travail là-bas? Ah!
L'audio description, je fais une tête bizarre. Après l'université, je pense que c'est un type de travail très particulier, donc on accepte beaucoup de choses par rapport à ce que les Japonais acceptent normalement dans la vraie vie, en tout cas au travail. Après, je pense que c'est en train de changer. Les jeunes ne sont plus du tout traditionnalistes comme les anciens.
Ouais.
Et ce qui est vraiment énorme. Mais moi, j'ai eu des problèmes. En tout cas, pour mon stage. Parce que, en fait, je devais communiquer avec une architecte. Parce que mon projet, c'était une mini-thèse. Et du coup, mon projet, c'était de réhabiliter une sorte de parc urbain et de comprendre l'importance de l'eau dans un parc urbain. Au niveau design thinking et design sensoriel et tout ça. Donc je devais faire plein d'études sur les gens, savoir comment ils ressentaient l'eau. Donc j'avais fait des thèses sur un parc avec beaucoup d'eau, un parc avec très peu d'eau et un parc avec zéro. Et du coup j'avais fait ces tests-là. Et en fait, mon professeur qui m'encadrait m'avait dit, mais je connais une architecte qui a fait des parcs urbains. Si tu veux, je te la présente, enfin je te donne son mail et tu lui poses les questions que tu veux. Elle a fait tel type d'architecture ou tel type d'architecture. Voilà ce qu'il m'a dit. En gros, il m'a donné deux titres de projet. Donc moi, toute naïve que je suis, je lui écris un mail avec des petites questions que je pense bien. Sur quel type de projet travaillez-vous? Que pensez-vous de l'architecture japonaise par rapport à l'architecture occidentale? Quels sont les types de tendances que vous avez? qu'est-ce qui apporte un parc urbain dans une ville. Des trucs complètement random, parce que moi, je ne suis pas architecte, je suis ingénieur. Vraiment rien à voir. J'envoie ce mail en copie avec mon sensei, comme on dit. Et je reçois un mail de retour de cet architecte qui dit « Je suis contente que vous m'ayez contacté, mais vous feriez mieux de lire mon site internet. » Avant de me poser toutes ces questions, je fais « Ok, elle a pas envie de répondre à mes questions, c'est pas très grave, c'était pas méchant son mail. » Je fais « D'accord, son site internet, je clique, il est tout en japonais. » Malheureusement. Et après, c'est pas fini. C'était une architecte japonaise qui avait fait ses études aux États-Unis. Donc d'accord. Elle connaît la version un peu occidentale de la culture. Elle n'est pas fermée d'esprit, elle est plutôt ouverte. C'était une femme. Donc ça allait, tu vois. Donc je me dis, ça va, je vais lire son site internet, je vais lui reposer des questions et ça ira. Elle a juste la flemme de répondre à mes questions. Voilà ce que je me suis dit dans ma tête. Une heure après, je reçois un mail de mon sensei qui dit « Tu as été très, très, très impoli avec elle.
Ah.
Excuse-toi tout de suite. »
Ah, ok.
Et moi, j'ai fait « Je comprends pas ce que tu dis. Je vois pas. J'ai posé des questions sur son travail. J'ai posé des questions sur ses projets. J'ai posé des questions. » Sauf qu'en fait, j'ai posé des questions tellement naïves que pour lui, ça n'allait pas.
D'accord.
Et c'était vraiment rédhibitoire. Mais vraiment, j'étais hyper, hyper impolie. Comme si je l'avais insulté de salope. Vraiment, pour lui.
Ah.
Et je l'ai regardé, j'ai fait... Mais... Après, on a eu plusieurs discussions avec lui. On a eu des rendez-vous. On avait des rendez-vous chaque semaine. J'avais des rendez-vous chaque semaine avec lui. Et il a essayé de m'expliquer. Je lui ai dit, je pense que c'est un problème de culture. Il m'a fait, non, ce n'est pas ça. Parce qu'elle était aux États-Unis et qu'elle connaît. Elle t'a répondu ça. C'est pas possible. Tu as été très 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 impolie, tu as été insultante. Alors, je tiens à te poser la question. Est-ce que pour toi, avec le début de l'explication que je te donnais, j'étais insultante par rapport à l'architecte?
Bah, non, pas tant que ça, c'est...
Maladroite, à la rigueur.
Ouais, ouais, maladroite.
Mais pas insultante.
Ouais.
Et du coup, j'ai pas compris. J'ai dit, bon, bah, j'arrêterai d'envoyer des mails au Japon et c'est fini. Et en fait, pour que j'ai... Tu sais, à la fin, je devais avoir une bourse et il fallait que j'ai un papier de mon sensei qui valide le fait que j'ai bien passé mon stage au Japon pour avoir la fin de ma bourse.
Ouais.
Pour ne pas avoir tout à rembourser.
Ouais.
Il m'a fait, je te fais ce papier que si tu que tu t'excuses auprès d'elle.
Ouais. Ouf.
Voilà. Donc le travail au Japon, moyen.
Ouais, ouais.
Je pense que je préférerais travailler au Japon, enfin être habité au Japon et travailler dans une entreprise internationale française.
Mais tu sais que moi, c'est l'un des trucs en fait qui me refroidit vachement par rapport à la culture japonaise en fait. C'est parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes en France qui sont un peu en admiration totale par rapport au Japon et tout, qui disent « Ah, c'est un pays merveilleux, avec la bouffe merveilleuse, les mangas, tous les machins et tout, la culture, l'asinitude. » Mais non. Ils ne se rendent pas compte qu'en termes de travail, c'est...
Non, le travail, c'est fou.
C'est l'enfer.
Ah oui.
Ah oui.
Et puis j'ai une amie qui a travaillé chez Honda pendant un an, elle était en VIE.
Oh la vache.
Et en fait, ils lui donnaient pas de travail parce qu'ils n'avaient pas confiance en elle, parce qu'elle était occidentale. Donc pendant un an, elle est allée au boulot sans avoir rien à faire.
Oh la vache. Oh la vache.
Un an. Je te garantis que le boulot au Japon, c'est l'horreur. Si t'es occidentale, en tout cas, il faut aller dans une entreprise, après, internationale. Après, la vie au Japon quotidienne est juste... simplissime, genre oufissime,
ouais.
Tout ce que tu veux, mais ne travaille pas dans une entreprise japonaise.
Ouais.
Voilà, c'est tout.
Ah non, mais je m'en doute, oui.
Mais franchement, la vie là-bas, genre les trucs sont ouverts 24h sur 24, tu peux acheter tout ce que tu veux, la bouffe est vraiment pas chère, c'est diététique, healthy, tout ce que tu veux, quoi. Enfin, franchement, tous les transports sont faciles à avoir, un peu chers, mais faciles à avoir. Il y a énormément de paysages magnifiques. T'as vraiment tout type de paysages. C'est magnifique. Les gens sont plutôt sympas, vraiment agréables. La vie quotidienne est extrêmement agréable. Tu peux aller faire de la plongée, du ski, tout ce que tu veux. C'est vraiment genre fou. Mmh. T'as les Alpes japonaises, t'as les plages de surf qui est à côté de chez moi. Enfin, franchement, t'as vraiment plein de choses au Japon. Et aussi la tradition, de la culture qui est assez intéressante sur aussi la religion. J'ai un peu travaillé là-dessus par rapport à mon sujet de thèse, enfin, mini-thèse. Et c'est hyper intéressant. Mais enfin, ça fait bousculer pas mal de choses dans ta tête, notamment sur la manière de croire à quelque chose.
Ouais.
Parce qu'il croit complètement différemment de toi.
Ouais.
Et ça, c'est fou. Genre, tout ça, c'est fou. Genre, même les mangas, les dessins, la manière d'apporter... ou même la manière de faire du marketing, c'est fou. Genre, t'as juste envie d'acheter des choses parce qu'elles sont trop kawaii. Mais le boulot, c'est vraiment le truc rédhibitoire. Mmh. Déjà, ils sont machistes de fou.
Ouais. C'est justement, je voulais t'en parler. C'est...
Bah, après... Moi, ça allait parce que j'avais quand même un prof qui était... Même s'il y a eu ce problème-là avec l'architecte, qui était une femme, je rappelle. Mon prof était l'un des profs qui parlait le plus anglais de toute l'université de Kyushu, qui est une université très, très reconnue quand même. La 7e japonaise, donc c'est quand même assez reconnu. Et... J'étais en train de dire quoi.
Machiste. Travail,
ouais, le travail. Et mais par contre, j'ai demandé à mon professeur, par exemple, de m'intégrer dans des groupes de travail ou ce genre de choses. Et en fait, j'avais jamais ma place. Après, je sais pas si c'est parce que moi je l'apprenais pas ou si c'est parce qu'on m'écoutait pas. Mais j'avais cette impression que mon professeur me prenait un peu pas au sérieux.
Ouais.
Et j'en ai parlé avec d'autres filles qui étaient là aussi, qui avaient juste un prof référent. Mais par contre, elles étaient là pour avoir des cours, elles. Et j'ai eu un peu le même ressentiment qu'elle.
Ouais.
Là-dessus, sur le fait qu'en fait, on te prend pas au sérieux, en fait. On t'est là juste pour voyager, juste pour faire du fun, et c'est tout, quoi. Par contre, Cyriac et Max, mes deux potes français qui sont des mecs, grands et baraques, les deux, et ben, ils ont pas eu ce rôle-là. Enfin, ils m'en ont pas parlé de ça, en tout cas, s'ils en ont eu un. Donc je me suis dit, il y a un petit bug quand même. Après, c'est le domaine universitaire qui est le plus ouvert du Japon par rapport aux compagnies. Donc je me dis, qu'est-ce que ça doit être en compagnie? Déjà, en tant que femme, t'es obligée d'être en tailleur, donc avec une jupe et des talons.
Mais non.
Si, t'es obligée de porter des talons quand tu vas au travail.
Ah bon?
D'ailleurs, les femmes japonaises ont fait une manifestation parce qu'elles ne voulaient plus porter de talons.
Bah, tu m'étonnes, attends.
Ça fait mal au dos, ça fait mal
mais
au
oui,
dos,
non, mais...
c'est mauvais pour ta santé. Tout. Oui, oui, elles sont obligées de porter des talons. Même si c'est tout petit, elles sont obligées d'en porter. Voilà le degré de machisme là-bas.
Ouais.
Après, la femme, elle tient généralement... Elle tient la maison, elle tient le portefeuille, c'est elle qui tient le mari. Tu vois, la femme un peu...
C'est en gros...
Tu vois, dans les mangas, la femme un peu forte qui travaille tout à la maison, c'est... la maman, tu vois.
C'est en gros, c'est un peu la France des années 70, c'est ça, actuellement au Japon.
C'est différent, c'est un peu ça, mais c'est un peu différent quand même parce que les femmes veulent ça en fait. Elles veulent pas travailler parce que c'est chiant.
Oui, donc c'est exactement ça. C'est les femmes des années 70 qui ont le droit de pas travailler et donc en profitent. Pendant...
Il y a un peu de ça,
ouais.
Je pense. En fait, après, il y a beaucoup, beaucoup de cas différents, mais actuellement, c'est ça. Après, je pense que les nouvelles générations qui d'autres générations sont en train de changer les choses un peu.
Ah ouais, tu m'étonnes.
Et du coup, ça va changer là bientôt,
ouais.
Mais à voir ce qui se passe. Voilà.
Est-ce que tu as ressenti ce truc-là de... qu'on a en France ou en Chine, que du fait qu'ils n'ont pas accès à l'anglais, donc ils n'ont pas accès à tout ce qui se passe dans le reste du monde, en termes de féminisme, en termes d'écologie, ce genre de trucs
Non, non, pas du tout, parce qu'en fait, ils ont pas forcément l'accès à l'anglais parce qu'ils parlent pas anglais.
Ouais.
Ils ont un moteur de recherche particulier à eux.
D'accord.
Un peu comme la Chine, je pense. Mais l'université est extrêmement liée, par exemple. J'ai eu un workshop avec l'Australie sur tout ce qui était recyclage, éco-responsabilité, conception éco-responsable, traitement des eaux.
D'accord.
Donc, non, j'ai pas eu cette partie-là. Et je pense que le Japon est hyper connecté avec les autres pays, même s'ils parlent pas beaucoup anglais. Ils traduisent beaucoup de choses, ce qui se passe à l'international.
Ok.
Parce qu'ils ont l'air hyper... pas avancés, mais... Parce que, en fait, ça dépend des régions d'où tu vas au Japon, mais globalement, au niveau tri, par exemple, sur une bouteille de thé glacé, l'étiquette, tu dois la mettre dans un certain sac. Le bouchon, tu dois le mettre dans un autre sac. La bouteille, tu dois le mettre dans un autre sac. Donc il y a vraiment, vraiment, vraiment
ça, c'est bien, ça.
Beaucoup de trucs de tri.
Mmh.
Après, ça dépend de la région où tu es.
Ouais.
Par exemple, la Fukuoka, c'est pas hyper développé, mais par exemple, la préfecture d'Oita, qui est un peu plus en dessous, c'est, ils trient tout. Mmh. Même, en fait, tu as des poubelles bleues. J'ai étudié ça un peu là-bas parce que du coup, j'ai fait partie d'un groupe de travail sur tout ce qui était recyclage. Et. En fait, là-bas, ils trient tout et les poubelles bleues, c'est leur compost. Et après, le compost, ils le réutilisent, ils le mettent dans une usine qui va après faire tout ce qui est épandage pour le thé.
Ouais.
Et, en fait, ils produisent beaucoup de thé.
Ouais.
Et du coup, en fait, tout le monde produit, enfin, va faire de l'épandage pour le thé. Du coup, ils récupèrent les poubelles et ils les mettent un peu comme tout le monde met les poubelles le mardi ou le lundi, je sais pas.
D'accord.
Et c'est très très drôle. Enfin, c'est assez impressionnant. Et puis ils trient vraiment tout. Par exemple, une ampoule, ils vont la défaire pour avoir même le filament.
Et ce qui est nécessaire normalement.
Ce qui est nécessaire, ouais, exactement. Ouais. Qui vont défaire le filament. Et du coup, nous, notre projet était de. Sur la préfecture d'Oita, il y avait vraiment un centre de recyclage principal qui faisait ça, qui dépiautait tous les outils. Et en fait, nous, notre but était de reconceptionnaliser cet endroit pour que ce soit agréable pour les gens et qu'ils aient envie de faire ça. Voilà, donc après on a un peu travaillé là-dessus. Et après, moi je suis pas restée assez longtemps pour pouvoir avoir la fin, mais voilà.
Ok, d'accord. Ah, non, mais faut qu'on parle de bouffe.
La bouffe japonaise.
Mais oui.
Grave. Vas-y, pose. Des clichés ?
Non, mais la bouffe japonaise.
La bouffe japonaise, elle est bonne. Par contre, on était avec des amis végétariennes.
Ouais.
Non, vegan. Vegan, c'est pire.
Ouais. C'est pas pire.
Pas pire, mais c'est mieux. Mais c'est pire au niveau compromis.
Ouais.
Et contraintes. Et du coup, il y en avait trois. Il y avait deux qui étaient prescritariens, c'est-à-dire qu'ils mangeaient tout sauf...
Comme
avec le ils mangent le poisson, mais pas les viandes.
Ouais.
Et il y en avait une qui était totalement végétarienne. Alors, pour trouver un resto... C'est pas possible. Ils en mangent peu.
Non, mais vous mangiez tous les jours au restaurant, c'est ça ?
Bah, presque. En fait, quand on voyageait avec Syriac, en fait, globalement, je mangeais tous les midis au restaurant. Ça me coûtait à peu près 3 euros.
Ouais.
Et c'était trop bon.
Ouais.
Vraiment bon. Et t'avais le riz à volonté. Je t'explique pas, Syriac et Max. Non, surtout Syriac, il se reprenait au moins 3 bols de riz. Au moins 3 bols de riz.
C'est comme moi en fait.
3 bols de riz, et puis enfin, on mangeait du poulet frit tous les midis.
Mm.
Mais après, des fois on changeait, on allait manger des udon. En fait, Syriac s'était fait ami avec deux potes chinois, donc qui parlaient anglais forcément, ouais. Et qui parlaient très bien aussi japonais.
Ouais.
Et du coup, ils nous invitaient toujours dans des restos improbables et ils nous traduisaient tout parce que c'était des restos qui n'étaient pas traduisables en fait pour les touristes ou pour les gens qui ne parlaient pas japonais.
Ouais.
Donc on mangeait des trucs trop bons. C'était trop bien. Voilà. Mais même la cantine de l'université était vraiment bonne au final. Et par contre, ce qui était bizarre, c'est que c'était des portions très très petites par rapport à la France.
Ouais.
Même à l'Europe. Ah. En fait, tout était divisé par deux, en vrai, dans les proportions.
Mais tu m'étonnes qu'ils prennent 3 balles de riz, Syria, à quelle heure dans son cas.
Exact. Donc, après, le poulet frit, on en avait quand même pour notre argent. On payait à peu près 2,50€. On avait 5-6 morceaux de poulet avec de la mayo dessus, une salade de choux et le riz à volonté. Ça va. T'es quand même... Tu manges bien.
Mm.
Mais après, quand on a voyagé, quand on a fait notre road trip avec Syriac, pendant un mois à peu près, on faisait que manger au restaurant tout le temps. Et au final, on payait vraiment pas si cher que ça.
Ouais.
Comparé à genre acheter soi-même sa bouffe et se faire sa bouffe,
ouais,
ça revient à peu près au même. Quand t'es tout seul, il vaut mieux t'acheter un bento que... Bento, c'est les trucs un peu... C'est les trucs déjà tout faits, mmh, tout cuisinés, que t'achètes en supermarché. Et
tu mets au four à micro-ondes,
ouais. Ouais, c'est ça. Et quand t'arrives à 19h, ils sont moitié prix. Parce qu'il faut qu'ils les vendent parce qu'après, ils les jettent. Donc t'arrives à 19h, tu l'as moitié prix. Déjà, il coûte 3€, donc tu l'as moitié prix. T'as tout gagné, tu vois. Et c'est sain, et c'est bon. Donc j'ai perdu 1 milliard de poids là-bas. C'était trop bien. Et je faisais que bouffer. C'était trop bien. Trop kiffé. Et puis les sucreries là-bas, elles sont pas sucrées.
Ouais.
C'est fou.
C'est la meilleure phrase. Les sucreries sont pas sucrées.
Et c'est tout au matcha. Tout leur confiserie que tu connais toi dans ta vie. Ils mettent du matcha et ils divisent par deux le sucre. Donc forcément du gros, si moi. Et forcément aussi, des fois, c'est moins bon. Mais c'est pas grave. J'ai testé des trucs, tu sais, au Combini. Combini, ouais, c'est ouais, un peu la supérette du coin, tu vois.
C'est un journal sur le net aussi.
Oui, c'est vrai. Mais le Combini, t'as plein de... T'en as 4 sortes, je crois. T'as
7-Eleven,
Family Mart, 7-Eleven.
Walmart.
Walmart.
Ouais.
Et je le dernier, je sais plus. Bon, bref, il y en a à peu près 3-4. Et ils sont ouverts tout le temps. Tout le temps. Genre 24
heures. Est-ce que les Family Mart aussi là-bas, ils ont cette espèce de musique, tu sais, à l'entrée du magasin, à chaque fois que quelqu'un passe sa porte? Un truc du genre. C'est horrible. C'est... En fait, tu vois, à chaque fois que je rentrais dans un Family Mart là-bas en Chine, je me disais, putain, les pauvres employés, ils doivent péter un câble avec cette espèce de musique d'entrée.
Après, il y avait la musique là où on était, nous.
Ouais.
Y a, dans les, pas les, les combinis, mais les vrais centres de shopping, il y avait la musique, ils sont fans de baseball là-bas. Il y avait la musique du groupe de baseball qui passait en boucle.
Du groupe de baseball?
Oui. Genre un peu comme
C'est des anciens joueurs de baseball qui se sont reconvertis dans la musique ou
non, c'est... non, c'était la musique de promotion de l'équipe de baseball de Fukuoka. Et c'était insupportable. Et en plus elle passe, tu sais, genre elle dure 1 minute et elle passe en boucle. Et ben, c'est vrai que la connaissait par cœur.
Culturellement, il y a personne là-bas qui s'est juste dit un jour, ça commence, c'est un peu énervant cette musique. Est-ce que vous voulez pas qu'on mette autre chose?
Je sais pas, mais c'est... non, ça marchait pas. En tout cas, dans les trucs pas chers, enfin les grands stores, parce que les combinis c'est quand même plutôt cher, ouais, par rapport aux grands stores. Non.
Ouais. Mais j'ai une question, voilà, par rapport à ça culturellement, c'est une personne qui ferait ça, qui demanderait, enfin qui donnerait juste son avis en disant
Vous en avez pas marre un peu, vous, de cette musique, parce que vraiment, on l'écoute en boucle. Est-ce que ce serait mal vu ou pas?
Oui.
Ok, d'accord.
Tu veux que je développe ou pas?
Ouais, pourquoi pas?
C'est mal vu parce qu'en fait, quand tu dis ton avis déjà, ça veut dire que tu es égocentrique. Et égocentrique, c'est une très mauvaise qualité
D'accord.
au Japon. Parce qu'en fait, la société prime avant tout.
Ouais.
Et ça, c'est très agréable quand tu vis dans la société. Alors par contre, quand tu dois le faire, par exemple, travailler dans un combini, travailler dans un Starbucks, travailler dans un... C'est juste impossible parce qu'en fait, le client est totalement roi, il fait ce que tu veux, ce qu'il veut de toi.
Ouais.
Mais vraiment. Donc tu peux avoir des abus très très facilement. Après, vu que la société prime avant les abus, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est plutôt cool.
D'accord.
Il y a quand même une sorte de bienveillance.
Ouais.
Après, moi, en tant qu'occidentale française, je pense qu'il peut y avoir beaucoup d'abus. Parce qu'en France, tu fais ça, c'est clair et net que tu as des abus.
Ouais, mais c'est pas la même culture. En même
oui,
temps.
Voilà.
C'est ça.
Mais c'est très agréable parce qu'en fait, les gens, ils te disent, enfin, tu dis, je suis étudiant. Quand tu vas dans un musée, ils te disent, ok. Ils te demandent pas ta carte. Ils te disent, d'accord, tu es étudiant, tu payes le prix étudiant. Ou tu vas dans un train et tu dis, non, je suis étudiant, t'as pas besoin de montrer ta carte. En fait, on te croit. Quand tu dis un truc, on te croit tout de suite.
Ouais.
Et c'est hyper agréable. Et du coup, en fait, t'as plus envie de gruger, comme en France. En fait, tu restes 2-3 mois là-bas et t'as plus envie.
Tu développes une vraie culpabilité.
C'est toi-même qui te culpabilise.
Ouais.
Alors qu'en France, j'ai qu'une envie, c'est de gruger, de pas payer mon truc, train.
C'est comme ce fameux truc, tu sais que t'as fait une connerie, tes parents t'ont grugé, et en fait, ils te disent rien. Et ils te laissent avec ta culpabilité.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Et du coup, en vrai, t'as beau avoir, par exemple, à Tokyo, c'est une ville qui est monstrueusement populée. Enfin, il y a beaucoup de population. Et ben j'ai jamais ressenti autant de bains de foule qu'à Paris.
Ouais.
Paris, c'est vraiment horrible au niveau bains de foule, au niveau personnes qui te bousculent, qui te rentrent dedans. Les gens là-bas font attention à leur trajectoire, à pas te toucher. C'est hyper agréable. Mmh. Enfin, rien que ça, c'est hyper agréable. Tu rentres pas dans quelqu'un. Au Japon, tu rentres pas dans quelqu'un. T'as beau avoir 1 milliard de personnes, tu rentres pas dans quelqu'un. C'est trop bien.
Ouais.
J'adore ça. Après, ça demande beaucoup de contraintes aussi. Mais par exemple, le revers de la médaille de ça, c'est, par exemple, les gens qui travaillent dans les combini, ils travaillent 24 heures sur 24. Presque. Ils doivent accepter tous les défauts des clients. Ils peuvent pas dire, tu me fais chier. Va te faire foutre, là t'es relou. Ça c'est le revers de la médaille.
Ouais.
Tu peux pas donner ton avis.
C'est le monde du travail. Oh. Le monde du travail en fait.
Globalement.
La vache. Ok. J'aime bien, tu vas se parler entre parler de food et parler de la culture japonaise. Relationnellement, c'est... Ils se déstressent un peu là-bas ou c'est... Est-ce que ça marche le festival du pénis là-bas?
Oh, j'en ai entendu parler tellement, mais j'aurais tellement envie de le faire, mais j'ai pas pu le faire. Mais en vrai, oui, ça marche.
Ça marche? C'est pas...
Mais si, en fait, la relation à la sexualité est tellement différente à la nôtre.
Ouais.
Si tu veux, t'as des sex stores partout.
Au Japon?
Oui, des magasins où tu peux acheter des sex toys. C'est très très facile et t'as un imaginaire de fou là-dedans. Mais par contre, on n'en parle pas. Tu ne parles pas de ça. Ce n'est pas autorisé. Par contre, tu peux avoir des délires de malade tout seul. C'est normal. Mais par contre, tu ne parles pas de ça.
C'est fou.
C'est fou. C'est un décalage totalement. On a vu avec Syriac des trucs dans les magasins à... C'était où? À Tokyo. On est allé dans des magasins de sextoys. Tu pars en bas, c'est juste des hentai.
Ouais.
Et après, plus tu montes, plus c'est des trucs hardcore. Et on est allé voir des trucs avec Cyril, c'était, on était choqués, tous les deux, on était, mais c'est quoi ce truc? Et apparemment, c'était totalement normal pour eux. Normal. Bon, déjà, j'étais la seule meuf dans ces magasins-là. Mais c'était plus ou moins normal. Et en fait, t'as un gros décalage avec le... C'est un peu comme l'alcool, tu vois.
Ouais.
En fait, t'as... Il faut rester droit, il faut rester bien, il faut rester socialement correct. Et quand tu bois, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est genre, tu te lâches complet. Et genre, c'est le moment, tu vois. Tu bois,
c'est ton moment.
C'est fini. C'est ton moment, tu fais tout ce que tu veux, tu lâches la pression. Tu lâches toutes les pressions que tu as socialement. Et après, tu reviens dans le rang. Et c'est autorisé, ça. Et bah, un peu pareil avec la sexualité, c'est genre... Tu peux avoir des désirs chelous, tant que tu les réalises pas en vrai, on peut te les autoriser en hentai, en manga, en trucs comme ça. Donc en même temps, c'est un peu bénéfique, parce que ça veut dire que le mec, il va pas être pédophile vraiment, tu vois.
Ouais.
Peut-être. Mais en même temps, c'est un peu chelou quand tu vas visiter des trucs comme ça.
En fait, ça biaise... Ben, c'est dans un sens, ça règle pas leurs soucis de... Ils font plus de bébés, en fait.
Non, c'est clair, ils font plus de bébés.
Ouais.
Mais tu sais, tous les pays soi-disant développés ne font plus de bébés.
Bah, ça dépend. Bon, l'Inde ou la Chine, tu vois, ils sont quand même sur des taux de natalité qui sont quand même de 2,1 ou quelque chose du genre, tu vois. Donc il y a...
Oui, mais l'Inde et la Chine ne sont pas considérés encore comme des pays développés de maintenant.
La Chine ?
Je sais, je suis d'accord avec
ouais,
toi.
Ouais.
Au niveau éthique, je suis ouais. d'accord avec toi.
D'accord.
Mais au niveau socialement, économique parlant, okay. politiquement parlant, de maintenant, les pays développés sont les pays qui ont été développés pendant le truc d'accord. moderne. Okay. Là, et que quand la colonisation a été faite et tout ça.
Ouais.
Quand les gros connards sont allés les coloniser, des pauvres gens qui n'avaient rien demandé de leur vie. Et du coup, voilà quoi. Mm. Donc, socialement parlant, le Japon, il fait que dégringoler de sa population. Et d'ailleurs, les jeunes japonais n'en sont que plus heureux.
Que ça dégringole ?
Oui.
Ah bon ?
Oui, ils sont... En fait, si tu veux, je regarde... Après, c'est pas moi qui ai fait cette analyse-là, mais je regarde Tev de Ici le Japon. Je sais pas si tu connais.
C'est de quoi ?
Ici, Japon.
D'accord.
Tu connais pas ?
Non.
Tev.
Non.
Il fait pas mal de vidéos. Enfin,
c'est un youtubeur.
Oui, c'est un youtubeur qui fait beaucoup de vidéos sur le Japon parce qu'il habite au Japon.
Ouais.
Il est marié à une japonaise. Et il est français. Donc, il fait beaucoup de vidéos là-dessus. Et il a fait une vidéo sur le fait que, justement, tout ce qui est sexualité au Japon. Et c'est très intéressant, et notamment sur le fait que les Japonais ne sont plus intéressés par la sexualité. Ils portent plus de plaisir à manger que à le sexe. Genre, le sexe, c'est la cinquième position par rapport à la bouffe. Donc, si tu veux. Et c'est Tanga, je sais pas si tu connais. C'est un sex toys masculin qui a été créé au Japon. Et c'est eux qui ont fait cette enquête.
D'accord, ok.
Donc c'est pas biaisé par je ne sais quoi, quelle compréhension et tout ça. C'est vraiment typique japonais. Et en fait, les japonais s'en battent les couilles du sexe.
D'accord, ok.
En fait, ils font du sexe pour eux.
Ah, d'accord, ok.
En fait, avec eux-mêmes.
D'accord, je vois.
Genre, pour eux-mêmes. Donc il y a énormément de sex toys complètement what the fuck. Mais par contre, dans leur relation... au sexe avec quelqu'un d'autre, ils font des trucs très très basiques.
Ok, ok.
Et ils vont même, par exemple, vu qu'il n'y a pas beaucoup... Enfin, les jeunes japonais n'ont pas beaucoup d'argent, ils vont par exemple dans les love hotels pour pouvoir avoir une intimité avec leur compagne ou compagnon. Parce qu'ils sont chez leurs parents, chacun d'eux, et on sait que les maisons japonaises sont très mal isolées. Du parchemin ça n'isole pas beaucoup, ok? Comment ça s'appelle là, les rideaux japonais,
ouais, ouais, ouais.
Les paravents, quoi.
Ouais, ouais.
Ça isole moyen.
Tu veux une anecdote, tu veux une anecdote par rapport à ça?
Vas-y, raconte-moi.
C'était avec ma copine de l'époque française, quand j'étais en Chine, on venait de se mettre en couple juste avant qu'elle parte à distance, en fait, en quelque sorte. C'est moi, j'étais resté à Shanghai, elle était partie à Shenzhen pour faire un stage. Et on s'était organisé notre premier week-end pour passer ensemble, au deuxième, je sais plus, deuxième week-end. Et donc on s'était dit, on va visiter la ville juste à côté, qui est la ville de Guangzhou. Donc je regarde, j'organise tout, je prends mon billet de train, je prends des billets je prends un hôtel et tout. Je repère un truc, c'est une chambre plutôt cool, tu vois, avec une décoration de bambou et tout, c'est plutôt bien. Et une fois qu'on arrive à l'hôtel, donc en fait on arrivait et on n'avait pas de liquide sur nous, on avait pris l'habitude de payer avec nos téléphones, tu vois, avec directement le truc. Donc on n'avait pas d'argent pour déposer le dépôt pour avoir la carte magnétique. Et donc on leur explique la situation et ils disent, bon, vu que vous restez qu'une seule nuit et potentiellement vu qu'on est déjà le soir, je pense que vous n'allez pas ressortir le soir. Donc on vous emmène directement à la chambre et juste ne ressortez pas, quoi.
Vous êtes enfermé.
Ouais, non mais c'était pas un problème parce qu'il était 22h, tu vois, donc on n'allait pas ressortir. Et donc c'était une employée de l'hôtel qui nous amène à la chambre, qui nous ouvre, et là elle ouvre et il y a des décorations. En fait, au lieu d'avoir des décorations de bambou partout, c'est des décorations avec des positions, vraiment des photographies tendancieuses, érotiques.
De
Kamasutra. Vraiment, en fresque sur les murs. Et là, je vois la décoration. Et là, je commence à me marrer, en fait. Je rigole. Je rigole beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, c'est plus tard que, du coup, ma copine de l'époque, elle me dit, mec, tu m'as foutu la honte. Elle nous a... La meuf, quoi, elle nous avait ouvert la porte. Elle a baissé la tête, vraiment. Elle a fait... Oh merde.
Bon, en même temps, je suis d'accord avec toi, c'est drôle.
Ouais.
C'est drôle, quand même. C'est ouf. Après, j'ai pas eu de musée ou comme ça où il y avait énormément de représentations érotiques.
Ouais.
À ce point.
Ouais.
Mais je sais qu'en fait, t'as la société et t'as ce que tu fais dans le sexe. D'accord. C'est genre un peu comme quand t'es bourré, tu vois. Genre, ta société et quand t'es bourré. C'est un truc où tu peux te lâcher. Ouais. Genre vraiment, tu te lâches comme tu veux, le sexe, mais dans ton imaginaire.
Ou dans les mangas.
Ou dans les mangas. Mais c'est tout, ça reste dans ton imaginaire. Ouais. Et du coup, tu peux aller très très loin. Enfin, il y a des mangas qui vont très très loin.
Ah oui, oui, oui.
Notamment pédophilie ou ce genre de choses, tu vois, c'est pas ouf. Et bref.
Ouais.
Et du coup, en fait, tu peux aller très très loin dans ton délire sexuel, mais en même temps, tu peux rester bien dans la société. Ça, c'est assez impressionnant. J'ai pas encore réussi à percer vraiment le secret de tout ça, mais... Par exemple, t'as des sextoys, c'est juste un cul de meuf, comme ça. Mais t'as, genre, le dos, il est même pas fini, tu vois. Genre, t'as juste le cul pour rentrer dans le vagin, tu vois, genre, vraiment. Et ça, c'est le sextoy pour mec. Je trouve ça hyper glauque.
La texture, elle est...
Ou t'avais aussi des poupées qui étaient dans des vitrines, des poupées, mais c'était des...
Taille réelle, ouais.
C'était très réel et c'était des gamines. Elles avaient pas de sang. C'était des gamines qui avaient 11 ans, à peu près.
Wow.
Ça, c'est glauque, tu vois.
Ouais.
Et y avait au moins une dizaine de vitrines comme ça, avec différents types de poupées. Et genre, d'habitude, c'est genre, tu t'attends en Asie, qu'ils aiment bien les gros seins, que ça fait ce boum boum boum, comme dans les hentai, tu vois. Et ben là, pas du tout, en fait. Au Japon, ils adorent les gamines, tu vois. Plus la meuf elle fait enfant, plus ils aiment bien. C'est vraiment chelou.
C'est malaisant.
Exact. donc il y a des trucs un peu bizarres.
D'accord.
Bon, on a vu aussi des trucs à l'extérieur que c'était tu sais, c'est une sorte de, pas de corde, mais de bout d'acier, enfin de métal, où c'est hyper fin, mais ça fait des petites boules comme ça. Toute petite.
Non, mais dis pas que c'est pour mettre dans l'urètre.
C'est pour mettre dans l'urètre. Exactement. Et il y en avait une dizaine, voire centaine de trucs différents, avec différents types de boules. Et Soria qui est venue me voir, elle me fait: t'as vu ça? C'est horrible! Bon, après, c'était le côté sadomaso, hein. Mais c'est fou parce que une société qui est complètement assez rigide, tu vois, t'es pas bien.
Non, j'ai mal, j'ai vraiment mal.
Désolée.
Ça m'a mis très mal.
Une société qui est quand même assez rigide, elle arrive à avoir une conception de la sexualité complètement foisonnante, tu vois.
C'est plus foisonnant, ça fait mal.
Oui, non, mais ça, c'est le côté sadomaso, mais il est quand même accepté, et t'en as beaucoup de trucs où tu peux acheter des sextoys, ouais, pour ça, tu vois.
Ouais.
Et en fait, c'est foisonnant, enfin, il y en a vraiment, il y a vraiment tous les styles. Et du coup, enfin, tu peux aller du juste vagin totalement, enfin, pour un mec en tout cas, tu peux juste aller du vagin totalement
artificiel, genre, ouais,
artificiel tanga qui fait qui est hyper épuré où tu vois rien, au cul d'une meuf à peine coupée, au truc pour mettre dans l'urètre, tu vois. C'est vraiment il y a vraiment beaucoup beaucoup de stades et tu peux vraiment trouver tout ce que tu veux, et c'est fou, genre tu t'attends pas à une société aussi rigide de pouvoir trouver autant de trucs derrière. Et ça, j'ai toujours pas percé le mystère de ça.
Ah, oh, vache. Ok, d'accord. Ouais. Ok, ok. On va... Oh, la vache. Ça m'était en malaise.
Pardon.
Non, mais tu sais que ça, cette section-là, elle va finir dans l'extrait de 10 minutes de mes interviews. Ça, je suis obligé de garder ce moment-là. C'est obligé.
Mais
garde-le, c'est pas... Oui, non, mais ça va être un épisode de 10 minutes exprès là-dessus. C'est ça le truc. C'est...
C'est
j'ai deux dernières questions. C'est du coup, comme je te l'ai dit, j'aime bien finir sur une histoire assez drôle. Donc, c'est une anecdote what the fuck. C'est en aïe.
Raconter des what the fuck. Attends, faut que je cherche. Après, une anecdote drôle, bah déjà, la meuf que j'ai rencontrée au Starbucks qui avait 60 piges et qui m'a dit: vas-y, on est amis. C'était très drôle. Après, il y a eu quoi d'autre? Il y a eu tellement d'anecdotes drôles. Je m'en rappelle pas. Enfin, déjà, dès qu'un japonais est bourré, c'est drôle. Il y a... Si, j'ai rencontré un japonais qui parlait couramment français.
Ah.
Mais il l'avait jamais appris en France. Il avait juste eu un ami français et il s'était dit: je vais apprendre le français. Et il s'était mis à étudier le français pendant 5 mois. Et il parlait couramment le français presque.
Mais non.
Et c'était fou. Genre, j'ai eu une conversation, j'étais bourrée et lui il était sobre et on parlait très bien. Il arrivait à comprendre ce que je racontais et j'étais bourrée, donc c'était fou. C'était fou pour lui. Je pense que ce mec est impressionnant.
Il était au meilleur de sa vie, en fait, le mec. Mm. C'est bon, j'ai passé un cap. À partir du moment où je peux parler avec des gens qui sont bourrés...
C'est clair. C'est clair. Mais franchement, ce mec était fou. Il parlait 3 langues, je crois, déjà. Et, enfin, bref. Il était fou. Après, il y avait quoi d'autre? Oui, bon, les relations plus ou moins... Ouais, si, les relations marrantes de Cyriac et Max, c'était ma femme qui... Mais ça appartient à eux, oui. Donc je vais pas leur dire. Après, quoi d'autre qui était marrant? Quand on est peut-être allé au Okinawa, c'était marrant. Enfin, c'était bien, c'était fou.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, on est parti à 5-6 personnes.
Ouais.
Pour voyager à Okinawa, donc l'île tropicale du Japon. Et en fait, c'est moi qui ai réservé le Airbnb. Sauf que je savais pas que c'était dans la cambrousse. J'avais réservé aussi la voiture parce que c'est moi qui avais le permis et tout ça. Bon, j'étais pas la seule à avoir le permis, mais c'est moi qui ai fait les réservations. Et en fait, je t'ai dit, bon, il était vraiment pas cher. C'était 20 euros la nuit pour 5 personnes.
Ah.
Voilà, c'est pas cher du tout.
Ah oui.
Et en fait, le mec, il avait une maison. C'était fou. Vraiment fou. Et du coup, on habitait chez lui. Et on était 5-6 étrangers. Et lui, il avait ses gamins et tout ça qui allaient à l'école. Et il parlait pas un mot anglais. Et du coup, c'était assez compliqué la conversation, les conversations, mais on a fait un barbecue ensemble. C'était très drôle. Et du coup, eux, ils ont ramené leurs trucs, nous, on en a ramené les nôtres. Genre, que des trucs végétariens parce qu'on était avec des véganes. Voilà, c'était marrant. Après, j'ai plongé aussi avec des tortues de
Et, non
mer
mais, et du
là-bas.
coup, il y avait ses enfants avec lui à ce moment-là?
Ouais, il y avait ses enfants. En fait, la celle qui parlait le mieux anglais, c'était sa plus grande fille,
Ouais.
qui était, je pense, à la fin de son collège.
D'accord.
Et des fois, elle disait, elle traduisait des mots dont on parlait à son père ou à sa mère. C'était assez marrant comme conversation parce qu'en fait, on pouvait pas vraiment communiquer, mais on se comprenait à peu près. Et du coup, on communiquait principalement par Google Trad. Franchement, Google Trad m'a tellement aidée pendant tous ces voyages, c'est fou. Ou quand tu tombes aussi dans un restaurant tellement perdu dans la cambrousse où t'as même pas de traduction. D'habitude, quand tu vas dans une chaîne ou dans un restaurant un peu hup des grandes villes, tu as une traduction toujours en anglais de tout ce qui a marqué. Ben, avec ça, on a testé des restos, genre bonjour pour traduire. On comprenait rien. On comprenait rien. Et du coup, on posait les questions aux gens, mais ils comprenaient pas plus que nous ce qu'on racontait. Du coup, on était bon, alors on ferme les yeux, vas-y. Ce plat-là, s'il vous plaît. Ouais. Après, on allait voir une de mes potes au-dessus de Tokyo et on a rencontré une de ses amies qui nous a rejoint après à Kyoto. C'était marrant. Après, on a vu des. Comment ça s'appelle? Des Yankees. Des vrais Yankees.
C'est quoi ça?
Tu connais pas?
Non.
Tu sais, c'est un peu les. Les.
C'est les joueurs de baseball, c'est ça?
Les Yankees, c'est les vrais. Enfin, les vrais Yankees, c'est les joueurs de baseball américains.
D'accord.
Mais les Yankees japonais, ça veut dire que c'est des mecs qui vivent dans la rue et qui sont un peu mafieux.
Ah.
Donc, c'est un peu des yakuza, mais c'est des jeunes yakuza qui sont pas encore
Yakuza.
yakuza.
Ok,
Donc,
d'accord.
ils ont des grosses motos, ils font. Et qu'ils ont un style vestimentaire bien particulier. Donc, à Osaka, non, c'était à Kyoto. On a vu avec Siriaque. Et Siriaque, il voulait absolument voir des Yankees avec leurs grosses motos.
C'est un peu les mecs de dans Akira, c'est ça?
Ouais,
Ok,
c'est
d'accord.
ça.
Ah, d'accord. Ça va, c'était pas dangereux?
Oh, ils font juste du gros bruit avec leurs motos pour l'instant. Après, je pense que. En fait, je pense que ce qui devient dangereux, c'est quand t'es japonais, parce que tu es dans le système.
Ouais.
Et du coup, pour régler des problèmes que t'as dans le système, des fois, t'as besoin de sortir du système.
Et d'utiliser des Yankees ou des Yakuza.
Et là, ça devient dangereux.
Ok, d'accord.
Mais en vrai, pour un touriste, c'est pas dangereux. Pas
Ah.
plus que ça. Parce qu'en fait, ils s'en fichent. Parce que, au pire, si tu vas dans un bar à hôtesse ou hôte. Tu peux avoir des problèmes avec des yakuza, c'est tout. Parce que tu payes pas ce que tu dois payer. Parce que, genre, les cacahuètes coûtent 30 balles. Un truc comme ça. Mais sinon, tu peux. Enfin, je pense que c'est dur d'avoir un problème avec un yakuza si tu veux juste te balader.
Ok.
Voilà.
Ok, d'accord.
Après, faut pas aller dans certains endroits, genre un peu. Genre, quand t'es un peu à la limite de la prostitution, c'est qu'il y a des yakuza. Globalement.
Ok, d'accord.
Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bars à l'entrée où tu as des meufs à moitié à Walp en photo pour te faire venir.
Enfin, moi, ça marche pas sur moi parce que je ne suis pas attirée par les meufs à Walp. Mais apparemment, ça attire les meufs, les mecs. Donc, en fait, à Fukuoka, il y avait tout un quartier comme ça. Et apparemment, à Tokyo, c'est pire. Et, enfin, dans toutes les villes, t'as un quartier un peu comme ça qui est complètement géré par les Yakuza. C'est les mecs de la nuit, maintenant. En fait, les Yakuza, avant, c'était vraiment les mafieux. Maintenant, c'est devenu un peu les mecs de la nuit qui maîtrisent leur business, quoi.
D'accord, ok.
Je crois.
Ça marche. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour finir l'interview ?
Il faut venir voir les cerisiers en fleurs.
Ah. Apparemment, c'est même pas un truc romantique. C'est vraiment non. Juste une grosse beuverie oui. Générale.
C'est, en fait, t'as le pique-nique traditionnel japonais qui est sous les cerisiers.
Ouais.
Et en gros, le but, c'est de se bourrer la gueule. De toute façon, dès que tu fais une soirée avec un japonais, il faut se bourrer la gueule parce qu'il faut libérer tout... Il faut tout libérer de la société. Et de toute façon, un japonais, il boit deux verres et il est... Ah si, une anecdote drôle. Tu veux une anecdote drôle?
Oui, évidemment.
En fait, au Japon, t'as une... T'as un omiyodai, c'est quand tu prends pendant 2 heures tout ce que tu peux boire. Tu payes un forfait, 2 heures, tu prends tout ce que tu peux boire.
Ah la vache.
Sauf que les Japonais, ils sont bourrés en 2-2. Nous, on n'était que des Européens.
Oui, vous.
Et du coup, on était 10. 10 Européens. Et du coup, le bar nous a dit, en fait, on ne peut plus, au bout de 1h30, nous ont dit... On ne peut plus vous servir, vous avez bu tout notre alcool. Voilà une anecdote drôle.
Wow.
Du coup, ils nous ont plus servi de verre, alors qu'on avait payé tous le omiyodai qu'on devait y avoir. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de trucs comme ça au Japon. C'est genre, tu payes à l'heure. En fait, tout ce que tu peux manger, tout ce que tu peux boire, tout ce que tu peux faire. Et on avait bu tout leur alcool.
Oh la vache.
Je sais pas si on avait bu vraiment tout leur alcool ou s'ils voulaient en garder pour les autres. Mais en tout cas, on avait bu tellement d'alcool.
Donc, restez sur la fierté que vous avez fini le stock d'alcool de tous les consommateurs.
Mais en même temps, on était avec que des gros gaillards. C'était tellement drôle. On était genre... Mais non, mais c'est pas possible, enfin, nous, on est des gentils, oh, arrêtez, on veut continuer à boire. Et du coup, ils nous avaient servi des trucs un peu purs, tu vois, genre vraiment dégueu, genre du whisky dégueulasse ou
ouais,
des trucs comme ça. Et en fait, au final, on n'a pas bu, parce que c'est vraiment dégueu. Mais il y a vraiment des mélanges chelous, genre du chocolat chaud avec des trucs bizarres. Et je pense que le umeshu, c'est le meilleur alcool au Japon. C'est de la liqueur de pêche.
Et ben on va rester là-dessus en disant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Merci Elisa.
Oui, voilà la fin.
À plus tard.
Un grand merci à Elisa d'avoir accepté de me laisser enregistrer cet épisode. Et surtout, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes de Let's Talk Venture sur YouTube, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, PodCloud, les archives d'Internet et vos applis de podcasts dédiés. Vous pouvez m'aider à faire grandir ce podcast en y mettant une note et un commentaire sur iTunes ou YouTube, mais surtout en partageant le podcast et en parlant autour de vous. Je compte sur vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. 横目で追い越して、あの人はもう気づく頃よ。バスルームに宇宙の伝言。浮気な恋を早く諦めない限り。ママから電話で叱って